Un escroc un peu malin peut assez facilement berner ceux qui ne sont pas sur leur garde et leur soutirer de l'argent. Il joue presque toujours sur les apparences, qui, comme chacun sait, peuvent être trompeuses. On trouve ce principe dans un passage des textes sacrés. Le prophète Samuel est à la recherche du prochain roi d'Israël et son regard se porte sur ceux qui ont l'allure de la fonction. C'est alors que Dieu lui dit « Ne te laisse pas impressionner. Je ne juge pas de la même manière que les hommes. L'homme ne voit que ce qui frappe les yeux, mais l'Éternel regarde au cœur. » Je continue la lecture du chapitre 16, premier livre de Samuel, en compressant tout au long. Isaïe présenta ainsi 7 fils à Samuel et celui-ci lui dit « L'Éternel n'a choisi aucun de ceux-là. » Puis Samuel lui demanda « Est-ce que ce sont là tous tes garçons ?»« Non, » répondit Isaïe, « il reste encore le plus jeune qui garde les moutons au pâturage. » « Envoie-le chercher, » ordonna Samuel, « car nous ne nous installerons pas pour le repas du sacrifice avant qu'il ne soit arrivé ici. » Isaïe le fit donc venir. C'était un garçon au teint clair, avec de beaux yeux et qui avait belle apparence. L'Éternel dit à Samuel, « C'est lui, vas-y, confère-lui l'onction. » Samuel prit la corne pleine d'huile et il en oignit David en présence de sa famille. L'Esprit de l'Éternel tomba sur David et demeura sur lui à partir de ce jour-là et dans la suite. Après cela, Samuel se remit en route et retourna à Rama. Versets 10 à 13. La première mention de David fait état du fait que c'était un beau garçon. Il n'y a évidemment aucun mal à cela. Dieu est lui-même le créateur du beau, du bon et du vrai. Nous apprécions tous la beauté d'une fleur ou d'un coucher de soleil. Mon sens esthétique et artistique fait partie des attributs de cette image de Dieu à laquelle j'ai été créé. Ceci dit, et bien que David ait eu un physique avenant, ce n'est pas pour ça que l'Éternel l'a choisi. La vraie raison est qu'il était un homme qui désirait de tout son cœur plaire à Dieu, et cela restera vrai malgré les fautes grossières dont il se rendra coupable. Le texte dit aussi que David exerçait une activité pastorale. Cet adolescent qui fait paître les moutons va être appelé à tendre et conduire le peuple de Dieu. L'image du berger sera par la suite fréquente dans les textes sacrés pour évoquer l'office royal, comme elle l'était déjà dans tout le Proche-Orient ancien. On remarque en passant que David ne semblait pas être très considéré dans sa famille, puisque son père ne l'avait pas invité à ce repas de sacrifice offert par Samuel. Je continue le texte. L'Esprit de l'Éternel se retira de Saül, tandis qu'un mauvais esprit envoyé par l'Éternel se mit à le tourmenter. Les serviteurs de Saül lui dirent « Voilà qu'un mauvais esprit envoyé par Dieu te tourmente. » Versets 14 et 15. L'auteur veut ici souligner que l'esprit qui avait été donné à Saül en vue de l'exercice de la royauté lui était dès maintenant retiré pour être donné à David. Ce transfert confirme la disqualification de Saül aux yeux de l'Éternel, qui va désormais œuvrer par l'intermédiaire de David et non plus par Saül. Jusque-là, c'est grâce à l'Esprit que le roi avait obtenu la victoire sur ses ennemis. Dorénavant, c'est David qui jouera ce rôle, tandis que Saül sera tenu en échec par les Philistins, les ennemis d'Israël. Malheureusement pour le roi déchu, ce n'est pas tout. Comme la nature a horreur du vide, pourrait-on dire, un mauvais esprit trouve un terrain favorable à son action en Saül. La désobéissance du roi et son insoumission à l'Éternel l'ont déstabilisé. Non seulement il est tourmenté par les conséquences de ses actes et par la conscience d'être rejeté par Dieu, mais en plus, un démon l'accable. À cause de sa responsabilité à la tête du peuple, les fautes du roi prennent un caractère beaucoup plus grave que pour un simple Israélite. C'est ce qui explique l'apparition de ce mauvais esprit. Je continue le texte. « Il te suffit, notre Seigneur, de dire un mot et tes serviteurs ici présents te chercheront quelqu'un qui sache jouer de la lyre. Quand le mauvais esprit de Dieu t'assaillira, le musicien jouera de son instrument et cela te soulagera. » Saül répondit, « D'accord, cherchez-moi donc un bon musicien et amenez-le-moi. » L'un des serviteurs dit alors, « J'ai justement remarqué un fils d'Isaïe de Bethléem qui sait jouer de la lyre. C'est aussi un brave guerrier. De plus, il s'exprime bien, il a belle apparence et l'Éternel est avec lui. » Saül envoya alors des messagers à Isaïe avec cet ordre. « Envoie-moi ton fils David, celui qui garde les moutons. » Versets 16 à 19. Le texte met en avant les qualités de David, invité providentiellement à la cour du roi sans que Saül ne se doute des conséquences que cela aura pour lui-même. L'effet apaisant de certaines musiques est reconnu depuis les temps antiques. Apparemment, c'était le cas en Israël. Tout le monde connaît la vertu des berceuses qu'on chante aux petits-enfants pour les endormir. Je me souviens de celle-ci qui date de ma tendre enfance, mais que je réciterai simplement. Une chanson douce que me chantait ma maman, en suçant mon pouce, j'écoutais en m'endormant. En fait, je l'ai également apprise en langue allemande au cours de mes études. Dans un genre tout à fait différent, il y a aussi le son des bols de cristal chantant des moines tibétains qui calment et détendent le pauvre air stressé par la vie moderne, pour ne pas dire par la vie dingue que nous menons presque tous. En tout cas, le remède maison proposé par les serviteurs de Saül est une tentative intelligente pour soulager le roi dont le cœur est maintenant plein d'amertume. À mon avis, il doit regretter le temps où il s'occupait des ânesses de son père, car il vivait alors avec la paix dans l'âme, et cet état n'a pas de prix. Ce passage mentionne que l'Éternel était avec David. Par la suite, cette formule, telle un refrain, va souvent revenir dans le texte. Je finis le chapitre. Isaïe prit un âne qu'il chargea de pain, d'une outre de vin et d'un chevreau, et il envoya ses présents à Saül par son fils David. Quand celui-ci arriva chez Saül, il entra à son service. Saül le prit en affection et lui confia le soin de porter ses armes. Il envoya dire à Isaïe, « J'apprécie beaucoup David, qu'il reste donc à mon service. Dès lors, chaque fois que le mauvais esprit venu de Dieu assaillait Saül, David prenait sa lyre et en jouait. Alors Saül se calmait et se sentait mieux, et le mauvais esprit le quittait. » Versets 20 à 23. Dans sa souveraineté, Dieu permet à David de chasser le démon grâce à sa lyre. Le futur roi va progressivement gagner l'affection de tous et perdre celle de Saül, qui va se montrer de plus en plus jaloux à son égard à la vue de la popularité croissante de son rival. Ces deux hommes vont avoir une évolution opposée. L'un va vers son déclin et l'autre vers son apogée. Nous voici arrivés au chapitre 17, un passage relativement connu dans lequel David révèle sa foi en l'Éternel. Je commence à lire en compressant. Les Philistins mobilisèrent leurs troupes pour une expédition guerrière. Saül, de son côté, rassembla les hommes d'Israël et ils campèrent dans la vallée du Chêne. Les Philistins occupaient un versant de la montagne et les Israélites le versant opposé. La vallée séparait les deux armées. Alors un champion sortit du camp des Philistins et s'avança vers Israël. C'était un géant mesurant près de 3 mètres, nommé Goliath, originaire de Gath. Versets 1 à 4. Les ennemis d'Israël se rassemblent à une 30 kilomètres au sud-ouest de Jérusalem avant de s'attaquer à Israël, tandis que Saül aligne ses troupes en face. Apparemment, les deux armées s'intimident mutuellement au point où c'est le statu quo. Alors les Philistins prennent l'initiative et optent pour un combat singulier afin de décider qui sera le vainqueur. À l'exemple des Grecs, auxquels ils étaient apparentés, ils aimaient quelquefois remplacer une guerre par une lutte entre deux champions. L'issue d'un tel affrontement était considérée comme un verdict des dieux. Goliath était de toute évidence un descendant des Anakim, une race de géants qui avait été décimée par Josué, mais dont quelques survivants s'étaient réfugiés à Gaza, Ascalon et Gath, des villes des Philistins. Je vois bien Goliath avant-centre d'une équipe de basket. Il aurait fait un malheur. Je continue. Il était revêtu d'un casque de bronze et d'une cuirasse à écailles en bronze pesant une soixantaine de kilos. Ses jambes étaient protégées par des plaques de bronze et il portait en bandoulière sur ses épaules un javelot de bronze. Le bois de sa lance avait la grosseur d'un cylindre de métier à tisser. Le fer de lance à lui seul pesait près de 7 kilos. Il était précédé d'un homme qui portait son bouclier. Il se campa face aux troupes israélites et leur cria. « Pourquoi vous êtes-vous rangés en ordre de combat? Moi, je suis le Philistin et vous les esclaves de Saül. Choisissez parmi vous un homme et qu'il m'affronte en combat singulier. S'il peut me battre et qu'il me tue, alors nous vous serons assujettis. Mais si c'est moi le vainqueur et si je le tue, c'est vous qui nous serez assujettis et vous serez nos esclaves. » Puis il ajouta, « Je lance aujourd'hui ce défi à l'armée d'Israël. Envoyez-moi un homme et nous nous affronterons en combat singulier. » Quand Saül et toute son armée entendirent ces paroles du Philistin, ils furent démoralisés et une grande peur s'empara d'eux. Or, David était fils d'un Éphratien de Bethléem en Juda, nommé Isaïe, et qui avait 8 fils. Ses 3 fils aînés avaient suivi Saül à la guerre. Quant à David, c'était le plus jeune. Il faisait le va-et-vient entre le camp de Saül et Bethléem pour y garder les moutons de son père. Chaque matin et chaque soir, le Philistin venait se présenter en face de l'armée d'Israël, et cela depuis 40 jours, versets 5 à 16. Tout en reconnaissant que les circonstances expliquaient la peur des Israélites, le texte veut aussi souligner que Saül et son armée manquaient singulièrement de foi dans les promesses de l'Éternel en qui ils auraient dû se confier. Je continue en compressant. C'est à cette époque qu'Isaïe dit à son fils David, « Prends cette mesure de grain rôti, et ces 10 pains et porte-les vite au camp pour tes frères. Emporte aussi ces 10 fromages, tu les donneras aux chefs de leurs milliers. Tu verras si tes frères se portent bien, et tu m'en rapporteras de leur part un gage. » David déposa son chargement et le confia au gardien des bagages. Puis il courut au front. Aussitôt arrivé, il vint demander de leurs nouvelles à ses frères. Pendant qu'il parlait avec eux, Goliath, le champion des Philistins, originaire de Gath, sortit de leur rang et lança son défi habituel. David l'entendit. « L'avez-vous vu s'avancer contre nous ? » dit l'un d'eux. « Il vient encore insulter Israël. Celui qui le tuera recevra de grandes richesses de la part du roi qui lui donnera en plus sa propre fille en mariage et exonérera toute sa famille d'impôts. » David demanda aux hommes qui se tenaient autour de lui, « Qu'est-ce que l'on donnera à celui qui abattra ce Philistin et qui lavera le peuple d'Israël de la honte qui lui est infligée ? Qu'est donc cet incirconcis de Philistin pour oser insulter les bataillons du Dieu vivant ?» On répéta à David ce qui était promis comme récompense à celui qui tuerait le géant. Lorsque son frère aîné Éliab l'entendit discuter avec les soldats, il se mit en colère contre lui et lui dit, « Que viens-tu faire ici? À qui as-tu laissé nos quelques moutons dans la steppe? Je te connais bien, moi, petit prétentieux. Je sais quelle mauvaise intention tu as dans ton cœur. Tu n'es venu que pour voir la bataille. » David lui répondit, « Et qu'est-ce que j'ai fait de mal? Est-ce que je n'ai plus le droit de parler maintenant? » Puis il tourna le dos à son frère et alla se renseigner auprès d'un autre soldat. et on lui fit la même réponse que la première fois. Versets 17 à 30. David arrive sur scène pour une raison très pratique. Il apporte le casse-croûte, pour ainsi dire, à ses trois frères aînés qui faisaient partie de l'armée de Saül. En ce temps-là, l'intendance ne suivait pas comme de nos jours et autant que possible, les familles essayaient d'améliorer l'ordinaire de leurs membres soldats. Mais loin d'apprécier David, ses grands frères le traitent comme un cheveu tombé sur la soupe. Quelle que soit l'époque ou la culture, les aînés n'apprécient pas les petits frères qu'ils trouvent envahissants. Arrivé sur place, David découvre la situation humiliante des Israélites et s'indigne de leur attitude poltronne qui tolère que l'Éternel soit insulté de la sorte par les Philistins. Je continue. Ce que David avait dit se propagea rapidement et parvint jusqu'aux oreilles de Saül qui, aussitôt, le fit venir. David lui dit « Que personne ne perde courage à cause de ce Philistin. Moi, ton serviteur, j'irai et je le combattrai. Quand ton serviteur gardait les moutons de son père et qu'un lion ou même un ours survenait pour emporter une bête du troupeau, je courais après lui, je l'attaquais et j'arrachais la bête de sa gueule. Et si le fauve se dressait contre moi, je le prenais par son poil et le frappais jusqu'à ce qu'il soit mort. L'Éternel qui m'a délivré de la griffe du lion et de l'ours me délivrera aussi de ce Philistin. » Finalement, Saül dit à David, « Vas-y donc, et que l'Éternel soit avec toi. » Puis il fit revêtir David de sa propre armure, il lui fit mettre un casque de bronze et endosser sa cuirasse. Par-dessus son équipement, David ceignit aussi l'épée de Saül, puis il essaya de marcher, mais il n'y parvint pas, car il n'en avait pas l'habitude. Alors il dit à Saül, « Je ne peux pas marcher avec tout cet équipement, car je n'y suis pas entraîné. » Puis il se débarrassa de tout. Il prit son bâton en main et choisit dans le torrent 5 cailloux bien lisses qu'il mit dans le sac de berger qui lui servait de besace et, sa fronde à la main, il s'avança vers le Philistin. Versets 31 à 40. Ce récit met en avant l'attitude de foi de David qui contraste avec celle de Saül et de ses soldats. C'est finalement avec l'équipement bien rudimentaire du simple berger que David part défendre le troupeau apeuré de Dieu. Je continue. Le Philistin, précédé de son porte-bouclier, s'avança vers David. Il l'examina et lorsqu'il vit devant lui un jeune homme au teint clair et de belle figure, il le regarda avec mépris et lui lança. « Est-ce que tu me prends pour un chien pour venir contre moi avec un bâton ?» Puis il le maudit par ses dieux. « Approche un peu, ajouta-t-il, pour que je donne ta chair à manger aux oiseaux du ciel et aux bêtes des champs. » À quoi David répondit, « Tu marches contre moi avec l'épée, la lance et le javelot. Et moi je marche contre toi au nom de l'Éternel, le Seigneur des armées célestes, le Dieu des bataillons d'Israël que tu as insulté. Aujourd'hui même, l'Éternel me donnera la victoire sur toi. Je t'abattrai, je te couperai la tête et avant ce soir, je donnerai les cadavres des soldats philistins à manger aux oiseaux du ciel et aux bêtes sauvages de la terre. Alors, toute la terre saura qu'Israël a un Dieu. Et toute cette multitude assemblée saura que ce n'est ni par l'épée ni par la lance que l'Éternel délivre. Car l'issue de cette bataille dépend de lui, et il vous livre en notre pouvoir. » Versets 41 à 47. Cette victoire va attester devant tous de la réalité du Dieu d'Israël. La question se pose, comment un jeune homme non aguerri pouvait-il s'attaquer à un géant puissamment armé avec autant d'assurance? Ça n'a pas de sens, et c'était du suicide, sauf qu'il faut se rappeler que Samuel lui a conféré l'onction et le texte avait alors ajouté « L'Esprit de l'Éternel tomba sur David et demeura sur lui à partir de ce jour-là et dans la suite. » Fin de citation. Voilà pourquoi l'attitude de David, loin d'être irrationnelle, est tout à fait sensée et la suite de l'histoire plausible. Cela me rappelle une parole de Jésus lorsqu'aux disciples qui lui demandaient comment quelqu'un pouvait être sauvé, il a répondu disant « Ce qui est impossible aux hommes est possible à Dieu ». En réalité, pour vous et pour moi, la vraie question est de savoir si je crois ou pas à la possibilité d'intervention miraculeuse de Dieu. Ce que je vous demande donc, c'est si vous croyez réellement en Dieu.